Gabriel, bonjour.
Oui, j'abonderai dans le même sens que notre invité, mais par contre, j'ajouterai ceci, qu'il ne faut pas seulement qu'il se fie au récipiendaire au dessus, mais qu'il s'adresse également aux gens des ressources humaines. Vous avez parlé, vous trouvez des vétérinaires, des gens qui ont fait l'économie, qui n'ont pas l'expérience en matière de gestion des ressources humaines. Je crois que c'est à eux, c'est une thérapeutique, je le prends comme un médecin. Il oriente aussi cette même observation auprès de ces gens-là qui n'ont pas la formation vraiment voulue en ressources humaines, et que c'est à eux aussi d'enlever le titre de gradués ou de licenciés pour mettre le profil qui sera de sorte qu'un décis qui a toutes les aptitudes voulues et qui peut, dans une certaine mesure, remplir toutes les autres conditions.
Oui.
Et celui-là puisse être quand même opté pour le recrutement par rapport à quelqu'un d'autre qui viendrait mais qui ne remplirait pas le même profil que le décis.
Donc, vous voulez dire que les recruteurs aussi doivent revoir leurs offres, leur manière de présenter les offres. Merci, Gabriel. Merci. Bédi Moulongo, vous êtes à Colisie. Bonjour.
Bonjour, je vous suis.
On vous écoute, Bédi.
Bonjour. Je voudrais juste intervenir sur l'émission qui se passe maintenant.
Oui, quelle est votre question, Bédi Moulongo?
Ok, je voulais juste poser la question à notre invité qui est là. Ok, je voulais juste savoir sur une personne qui n'a pas étudié, donc un analphabète, il ne sait ni lire ni écrire. J'aimerais juste savoir si c'est qu'il peut avoir la chance de trouver un emploi juste ça.
Merci. Alain Poutou.
Mais je crois que sa question est claire. Il a bien dit quelqu'un qui ne peut pas ni lire ni écrire.
Or,
ici, nous parlons de la vie professionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un certain moment, doit rendre compte. Il doit rédiger des rapports de ce qu'il a fait, des rapports d'activité. Mais quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, comment est-ce qu'il peut trouver l'emploi? Je crois que cette
il doit commencer par aller dans le sens de rattrapage.
Justement, il doit d'abord commencer par se rattraper et
oui.
Suivre les processus normaux.
Voilà. Alors, par rapport à la première question, les recruteurs, les chargés des ressources humaines, à la proposition de l'auditeur, qu'est-ce que vous en dites?
Je suis tout à fait d'accord avec lui.
Oui.
Je crois qu'au début, c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. Il y a des gens qui sont, par exemple, les licenciés en économie. Il est chargé des ressources humaines. C'est-à-dire, dans sa tête, lui, il sait que pour travailler, il faut avoir une licence. Il ne comprend même pas qu'actuellement, quand on lance les offres d'emploi, regardez un peu les organisations où il y a des techniciens aux ressources humaines. On dit souvent avoir un diplôme universitaire, de 3 ans en économie ou en sciences politiques, souvent on dit ou une formation. Vous comprenez un peu, les autres même disent ou équivalent. L'équivalent là c'est quoi? C'est-à-dire quand vous avez une formation professionnelle qui correspond au titre du poste, je crois que vous êtes dans les bons. Vous allez trouver dans le nouveau système, nouveau modèle du CV actualisé, dans les formations suivies, on précise le titre de formation ainsi que les matières que vous avez traitées pendant la formation.
Mmh.
Et vous allez trouver que souvent les matières traitées pendant la formation correspondent à la description du poste. Je crois que quelqu'un qui a été bien formé aux ressources humaines, quand il reçoit les offres d'emploi, il ne peut pas se baser nécessairement par rapport au diplôme. Il va regarder d'abord ce que la personne a présenté dans son CV et dans sa lettre de motivation. C'est ce qu'on appelle la présélection. Vous convoquez quelqu'un sur base de ça. Mais là, quand il est devant vous, vous le confrontez à l'interview qui vous démontre comment est-ce qu'il va exécuter.
Bien. Christophe Missona, vous êtes à Walikale, au nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit Kanchama et bonjour à tous les auditeurs Radio Kapi Walikale.
Christophe, quelle est votre question?
Ma question est par rapport à cette intervention, c'est juste comment se pointer ou comment se positionner, du moins, quelle altitude pouvons-nous apprendre ou afficher vis-à-vis de ça, parce que vous allez constater que autant des ONG, autant d'organisations nous fait à ce que nous puissions être, n'est-ce pas, victimes par rapport à cette situation. Et aussi, vous allez voir, si vous ne respectez pas ces principes, ces règles, nécessairement, vous serez, n'est-ce pas, victime par rapport à ça. Quelle altitude pouvons-nous prendre par rapport à ces situations? C'est ça comme ma question.
Oui. Vous voulez parler de quelles situations, Christian?
exactement la situation de ces critères-là. Si tu ne voulais pas licencier, vous n'êtes pas graduer, nécessairement, vous n'avez pas le droit à postuler. Pendant que tout Congolais ou toute personne a droit, je peux avoir un diplôme d'État, et aussi je suis capable, n'est-ce pas, à répondre, n'est-ce pas, à toutes questions, et aussi à assumer la responsabilité dont on a affiché dans un autre ou dans un poste quelconque.
Oui, je crois que pour M. Fiston, par rapport à sa question, M. Fiston doit suivre des formations professionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Il fait des formations professionnelles et il doit toujours prendre les risques. Il postule, même si on l'appelle pas, il doit toujours postuler jusqu'à ce qu'il va rencontrer un employeur qui a bien compris le système de recrutement. Parce que je crois que prochainement, dans une autre émission, on va parler sur le recrutement et la sélection. Parce que je crois que même les gens qui sont ressources humaines, ils ont une grande confusion. Je prends le cas des agences de recrutement ou les services de placement. On cherche un assistant comptable dans une société d'aviation. Vous allez passer les tests dans un service privé de placement. Ce n'est même pas eux qui vont vous employer, mais vous allez travailler dans une société. Mmh. Je crois que pour recruter un assistant comptable, on devait commencer par appeler le comptable de la société, parce que c'est lui qui sera le manager de la personne. Mmh. Pendant l'interview, lui va avoir un peu des questions qu'on pose à la personne, parce qu'il connaît les tâches que lui doit exécuter, et les tâches que l'assistant doit aussi exécuter.
Oh, voilà. Parce que c'est lui qui donne les questionnaires à l'agence de placement.
Non, mais donner les questionnaires, c'est différent quand vous assistez au même recrutement.
Oui.
Quand la personne est en train de répondre, je crois que vous saurez, oui, qu'une telle personne peut travailler ou l'autre ne peut pas travailler. Je crois que le problème, c'est plus aux recruteurs. Les recruteurs doivent un peu changer certaines choses qu'ils estiment comme exigences. Ce ne sont même pas des exigences. Parce que vous pouvez prendre quelqu'un qui a la licence, quand il vient chez vous, il postule, vous l'évaluez, vous allez vous rendre compte que la personne ne s'adapte pas au poste. Il y a incompatibilité entre sa licence et la description du poste. Pour le monsieur, il doit d'abord suivre des formations. Il ne doit pas se laisser intimider par ces exigences-là de licence. Non, il doit toujours postuler jusqu'à ce qu'il va rencontrer une organisation qui comprend un peu les réalités du recrutement.
Oui. Donc, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur les formations.
Je mets l'accent sur les formations et sur les compétences.
Sur les compétences.
Dernièrement,
pas sur les titres, les diplômes.
Ça, c'est rien. Les diplômes, c'est rien. L'ère à laquelle nous sommes, c'est pas le temps des diplômes, c'est le temps des compétences. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Parce que vous pouvez être dans un système, vous êtes au nombre des 15. Mais qu'est-ce qui crée la différence entre vous et vos collègues? Je crois que c'est le rendement que vous donnez. Ça n'a rien à faire avec les diplômes. Vous sortez tous d'une même université. Vous avez reçu les mêmes cours, même professeur, mais sur le terrain, vous n'allez pas donner le même résultat.
Voilà, des questions de préoccupation. Composez déjà le 0-80-890-63-94. La première chose, vous avez dit, la personne qui a un diplôme d'État, un des 6, comme on le dit ici chez nous, doit, en dehors de son diplôme, elle doit suivre des formations. Est-ce qu'il existe des centres un peu partout, à travers le pays, où suivre ce genre de formations professionnelles?
Oui, moi-même qui suis ici, je vous dis que nous sommes dans ce système-là. Ce que nous faisons, c'est pallier à l'inadéquation entre les cursus universitaires et les besoins réels des employeurs à la médiévre. Les gens qui assistent à nos formations, nous leur disons souvent que chez nous, c'est différent de l'université. Même si vous avez un diplôme d'État, vous venez par exemple pour travailler comme un logisticien ou un chargé du chariot automobile. Est-ce que ça demande une licence? Je ne pense pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des gens qui sont au poste, qui occupent ces postes-là quelque part. Par exemple, vous êtes présentateur de l'émission. Nous voulons former, par exemple, les présentateurs de l'émission. Nous vous appelons. Vous venez dans la salle, vous expliquez aux gens exactement qu'est-ce que vous faites vous-même. Est-ce que ça, il faut que j'ai une licence pour comprendre ça? Il y a des gens qui ont l'intelligence professionnelle. C'est-à-dire, il a ce que nous appelons la puissance de l'observation. Il est à côté de vous, il observe tout ce que vous êtes en train de faire et vous le lâchez 3 mois après. Cette personne-là va donner le rendement comme s'il avait déjà 5 ans d'expérience.
Donc l'observation, là, c'est toute une école.
Très important, très important. Et c'est dans nos formations, souvent, parce que ici, c'est la presse, ça, c'est énorme. Je ne sais pas être trop large parce qu'on court derrière le temps, mais les gens qui assistent dans nos formations, nous leur donnons suffisamment de détails parce qu'on prend 2 heures pour leur expliquer un peu même comment passer les interviews, comment rédiger une lettre de motivation au point de contourner l'exigence du diplôme et des 5 ans d'expérience. Parce qu'il y a toujours possibilité de contourner.
Jacques Mutombo, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quelle est votre question?
Ma question était de savoir comment faire face aux exigences des employeurs qui demandent toujours une expérience professionnelle de 5 ou 3 ans. Alors pour les jeunes universitaires ou bien les jeunes qui viennent de formation professionnelle. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir face à ces exigences?
Merci beaucoup. Je le dis souvent que le problème de l'emploi ou du chômage est un problème très sérieux qui nécessite toute une vulgarisation. On doit informer les gens sur les techniques et les exigences de la réalité professionnelle. Les gens qui sortent fraîchement de l'université, ces gens-là, ils ont un problème. Comment? Parce que quand il vient, il présente son CV. Vous essayez de parcourir le CV, vous allez vous rendre compte que c'est seulement sa licence et le titre de son mémoire. Souvent, les gens confondent un peu quand ils font des CV, ils mettent le titre de leur mémoire. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des langues parlées, d'où il est né, district, le nom de ses parents, tout ça. Apparemment, le CV ne parle pas. Le CV ne parle pas. Même quand l'employeur regarde ça, il se dit que mais, j'ai affaire avec un profane, quelqu'un sur qui on doit encore investir. Pendant que vous, pendant l'interview, on vous a posé la question sur le salaire. Vous avez déjà fixé le salaire. Pendant que vous êtes encore un généraliste, le système doit d'abord mettre du temps pour vous former. Qu'est-ce qu'il faut faire? La personne qui sort de l'université doit d'abord suivre des formations professionnelles. Des formations qui correspondent au poste qu'il est en train de projeter. Ça, c'est d'abord ça. Parce qu'il ne faut pas vous quitter l'université, on vous demande, vous dites, non, comme je fais la communication, directement, je serai journaliste. Ça, c'est la confusion. Tout le monde qui a fait la communication ne peut pas être journaliste. Il y a des gens qui peuvent travailler comme les chargés de communication marketing dans les sociétés. Mais quand quelqu'un il finit déjà à l'université, il dit, moi, c'est le journalisme. Lorsqu'il va postuler, il va toujours chercher si à la radio, quand il va insister pendant qu'il n'y a même pas de poste. La personne doit suivre la formation. Après la formation, les gens apprennent comment rédiger les lettres de motivation. C'est là où il y a un problème. Parce que c'est la lettre de motivation et le CV actualisé, ce sont les deux éléments qui attirent l'attention de l'employeur.
Il faut bien rédiger.
Justement, il faut bien rédiger. Ouais. Il ne faut pas avoir un CV d'une page. Ça ne pèse pas. Le CV varie entre 2 à 3 pages. Et ça doit avoir au moins 9 rubriques. De façon que quand l'employeur est en train de l'exploiter, il se rend compte que non, même si la personne n'a pas l'expérience, il n'a pas la licence, mais dans votre CV, il y a une rubrique que nous appelons les habiletés ou les savoir-faire. Donc, vous démontrez ce que vous êtes capable de faire. Justement.
Oui. Donc, il faudrait peut-être une autre émission pour parler de comment rédiger un CV et la lettre de motivation. Luc Minda, vous êtes à Colisi, bonjour.
Bonjour l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Fatou.
Oui, on vous écoute.
Ma préoccupation de savoir, lorsque dans des organisations ou des entreprises, comme critère de sélection, il y a des conditions qu'on requiert là-bas, disant par exemple que la personne doit avoir 5 ans d'expérience professionnelle, en rapport bien sûr avec le poste qu'elle aura occupé. Maintenant, ma question de savoir, lorsqu'on parle de l'expérience et de l'ancienneté, y a-t-il lieu de confondre les deux concepts, ou bien quelle est la lumière que peut apporter là-dessus notre invité?
Merci, Luc. Makito, vous êtes à Isiro, bonjour, dans la province orientale.
Bonjour, c'est à notre invité là. Bon, ma question était de savoir d'abord, si par exemple chez nous, au lieu de travailler, de terminer les études, si on a suivi aussi des formations professionnelles, ben, vous allez voir dans une entreprise, pour demander d'abord un emploi, on vous exige par exemple une certaine âge à avoir ceci, même avoir ce que l'autre là, intervenant, venait de l'éducation. C'est 5 ans d'expérience, c'est comme vous exposez sur les offres là au Cathy, mais ça nous décourage davantage. C'est ça ce que je voulais te poser à l'invité. Et puis il faut qu'il puisse d'abord nous donner une différence là, entre lettre de motivation et demande d'emploi et CV. C'est ça aussi ce qui fait beaucoup de problèmes dans nos endroits ici. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette différence là.
Ouais, donc ce qui vous décourage plus, c'est lorsque vous êtes devant des offres où on exige 5 ans d'expérience.
Oui, c'est ça. 5 ans d'expérience et un certain âge là-bas. Mais nous sommes compétents de travailler, mais seulement les ministères là aussi, ça nous décourage davantage.
Merci. Alain Poutou.
Oui, même dans toutes les offres d'emploi, vous ne trouverez pas, surtout dans les systèmes actuel, moi j'ai toujours dit que la configuration du marché de l'emploi est dominée par les organisations internationales. Je prends le cas, on cherche un chargé de sujet évaluation de projet. Quelqu'un qui sort fraîchement de l'université, qui a reçu le cours d'évaluation de projet, ne peut pas être pris comme un consultant. Le consultant, c'est quelqu'un qui apporte son expertise technique. On court derrière les temps. il y a quelque chose que nous voulons, on veut obtenir des résultats. Donc on prend quelqu'un qui a déjà fait preuve de ses compétences.
Mais c'est quoi un projet limité dans le temps,
justement, parce que les bailleurs de fonds aussi, moi je me dis souvent qu'il y a un problème, et devait commencer un peu à expliquer les gens. Pour un projet, vous allez vous rendre compte, on cherche un assistant aux finances, la durée du contrat c'est 3 mois. On prend quelqu'un qui sort fraîchement de l'université, licencié en économie ou licencié en sciences politiques et administratives. Il n'est même pas comptable, il n'est même pas aussi financier. Quand il vient là-bas, on doit encore l'apprendre, on doit faire passer 2-3 mois. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux bailleurs de fonds? Qu'on a pris le temps pour former quelqu'un. Mais pour certains postes, moi je me dis souvent que même ces gens-là qui ont 5 ans d'expérience aujourd'hui, ces gens-là avaient commencé, ils n'avaient même pas d'expérience. Et on leur avait toujours exigé ces 5 ans-là. Mais ils avaient osé.
Ils avaient osé.
Justement. Parce
qu'ils ne se font pas décourager.
Justement, vous frappez ici, si on ne vous appelle pas, allez à côté, il y aura toujours un employeur qui sera intéressé de votre CV. Il se dit, la personne n'a pas l'expérience, n'a pas plutôt l'ancienneté, parce que moi je n'aime pas parler d'expérience. L'expérience, il faut d'abord qu'on vous évalue. On évalue, on contacte les références donnent de bons témoignages de votre parcours. Ça, je peux parler d'expérience. Mais le reste, là, c'est un point d'ancienneté. Mais actuellement, il faut plus que les gens savent plus sur les compétences, ce qu'ils sont capables de faire. Ça, c'est très important. Et les gens-là qui se laissent intimider par les 5 ans d'expérience, de licence.
L'âge aussi, il a parlé, l'auditeur du coup a parlé de l'âge.
Non, l'âge, là, il faut se poser la question. Et ça, je vais parler l'autre fois sur la gestion des carrières. On cherche un chargé des ressources humaines dans une organisation qui est censée faire vivre pendant longtemps. Quelqu'un qui a déjà, par exemple, les 50 ans. Comme ici, souvent, les gens finissent les études en retard. Ils commencent aussi la carrière tard. Si on les prend à l'âge, par exemple, de 45 ans. Donc, une telle personne ne fera que 15 ans, il aura 60 ans, il va laisser les boulots. C'est comme ça, pour certains postes, on exige aussi l'âge. Mais je ne pense pas que cela soit vraiment un frein pour les demandeurs d'emploi. Non.
Voilà. Sidonie Akaenga est en ligne depuis Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Sidonie.
J'avais une question. J'étais à l'université et j'ai dû quitter dans l'université par manque de moyens.
Mmh.
Et pour le moment, je ne retourne pas de boulot. Mais j'ai une chance parce que j'ai appris l'anglais. Et je parle couramment l'anglais et l'informatique. Je l'ai appris moi-même à la maison parce que j'ai donc l'ordinateur et tout ça. Alors, je voudrais poser la question à l'invité. Qu'est-ce que je peux donc faire pour avoir donc une formation professionnelle qui pourra m'aider un jour ou un autre de postuler et d'avoir un emploi? C'était ça ma question.
Bien, restez en ligne, merci Denis. Alain Couteau.
Dans les offres d'emploi, on dit souvent la connaissance de l'anglais serait un atout. Ce que nous appelons avantage compétitif détenu. Dans le marketing professionnel, il y a ce qu'on appelle l'avantage compétitif détenu. Donc, 1000 personnes ont postulé pour un même poste. Mais le simple fait que vous parlez anglais, et que surtout si c'est un système à vocation anglo-saxonne, je crois que c'est vous qu'on va prendre. On va laisser tomber les autres. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui parle déjà l'anglais, il a ce qu'on appelle l'apprentissage rapide.
Alors, si Denis a appris l'anglais,
il a appris l'informatique. Madame doit chercher à suivre une formation en relations publiques et gestion du protocole d'abord. Elle va postuler comme une assistante de bureau en un premier temps ou comme une secrétaire. Madame peut aussi faire la formation de tenue et gestion de la caisse, c'est-à-dire postuler comme une caissière. Mmh. Et progressivement, elle va commencer à évoluer. Je crois que pour elle, déjà, c'est déjà bon. Question qu'elle ajoute une ou deux formations professionnelles pour combler les trous. Je crois qu'elle peut déjà décoller.
Voilà, Sidonie, vous êtes encore en ligne, vous avez suivi. Et quelles sont les autres formations que vous envisagez de suivre, par exemple?
Ok, donc à l'école secondaire, j'ai fait la section commerciale et à l'université, j'ai fait l'économie, mais par manque de moyens, j'ai dû donc abandonner mes études. Et depuis là, je n'ai pas aucune autre formation. Alors, je voudrais juste demander à l'invité qu'il me dise ce que je pouvais dire pour combler ce vide.
Voilà, il a déjà dit, peut-être, vous voyez dans la ville de Kisangani où vous pouvez suivre d'autres formations.
Oui, je l'informe aussi qu'il peut déjà aller dans la salle de formation des frères des écoles chrétiennes. Je serai déjà là les 3 pour une conférence.
À Kisangani?
Oui, la banderole est déjà placée là parce que j'ai compris que c'est un problème très sérieux et je me suis décidé au moins de visiter toutes les provinces pour vulgariser le problème de l'emploi, où je vais donner des conférences sur les techniques d'interview, les techniques de vente des compétences professionnelles, comment présenter le CV, la lettre de motivation.
Donc à partir du 3 octobre?
À partir du 3 octobre.
Vous serez à Kisangani?
Oui, oui.
Merci, je pense que Sidonie sera là aussi. Trésor Gouga.
Oui, merci Sidonie, bonne journée. Trésor Gouga, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour Radio Fati et bonjour à tous les éditeurs.
On vous écoute Trésor.
Oui, j'avais une préoccupation, une question à poser à notre invité.
Oui.
En attendant, tout ce qu'il a parlé, c'est, apparemment, c'est comme si j'ai question de diplôme. Je ne comprends pas. Donc, pour nous autres, moi, je suis en LM maintenant. Donc, si je le comprends bien, il pousse à laisser nos études que nous puissions entrer dans un centre de formation. Donc, moi, vraiment, en attendant tout ce qu'il a dit, je ne suis pas vraiment trop rassuré et trop sûr de tout ce qu'il nous dit là. Pour lui, il privilège d'abord sa centre de formation. Or, le diplôme qu'on a, c'est une façon, c'est quelque chose qui va d'abord nous aider. Donc, je dirais que c'est un investissement à vie. La personne qui a un brevet, c'est la personne qui a un diplôme, qui est vraiment positionné dans les futurs, avoir un bon boulot et se positionner normalement.
Merci
la formation, après
oui.
Les titres,
oui.
Là on le sait, avant d'être engagé dans toute société, il faut d'abord passer par une formation.
Oui.
Dire que non, il ne faut pas nécessairement étudier, avoir des diplômes de licence et après. Donc, ça ne m'a pas vraiment arrangé. Tu peux peut-être arranger sa façon de parler. Si le marketeur pour sa centre de formation, qui parle pour sa centre de formation et non décourager ceux qui étudient. Comme moi, pour ce temps, vraiment, il ne m'a pas vraiment assuré pour sa centre de formation. Donc, il me décourage même à étudier. Donc, c'est pas bien. Qu'il soit
merci
vraiment.
Merci Gouga. Alain Poutou.
Oui, je crois que lui n'a pas bien suivi l'émission. Il a pris l'émission peut-être en cours. Il n'a pas compris. On est en train de parler de gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Il a un diplôme d'État ou il n'en a pas. Quand il y a des offres d'emploi, la personne a du mal à affronter la vie professionnelle.
Oui.
Parce que dans l'offre, on ne demande pas les diplômes d'État, on demande la licence, on demande les graduats et les 5 ans d'expérience.
Vous minimisez les diplômes?
Non, on ne limite pas les diplômes. Je lui démontre qu'il aille par exemple dans une banque. Il y a des gens qui ont des licences en économie monétaire.
Oui.
Parce que ces gens-là occupent des positions de leadership dans les banques. Regardez au guichet des banques. Il y a des gens qui ont fait, par exemple, la psychologie. Quelqu'un qui a fait du stage, je connais un ami, il a fait du stage, mais il travaille au guichet de la banque. Donc, j'étais en train de lui montrer que l'ère actuelle où nous sommes, c'est pas quand il dit, par exemple, non, pour être positionné, il faut avoir un diplôme de licence. Moi, je pense pas que le monsieur est informé par rapport à la réalité de l'emploi. Il y a plusieurs gens qui terminent 6 ans de licence, mais certains sont dans des cabines téléphoniques, les autres, ils sont là, ils se retrouvent pas. Et tu lui poses la question, pourquoi est-ce que ces gens-là sont au chômage? Si les diplômes licence était l'équation ou la condition pour entrer dans la vie professionnelle, je crois que tout le monde allait travailler.
Voilà. Justin Ramadani, vous êtes à Kalimi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Kassama. Bonjour, Alain Jouté.
Quelle est votre question, Justin?
Bonjour, monsieur Kassama. Bonjour. Oui, moi, j'avais des préoccupations. Malheureusement, la première préoccupation est déjà répondue.
La deuxième? Allez dire à moi avec la deuxième.
Oui, la deuxième préoccupation, j'aimerais seulement savoir à l'invité, quelle est la différence y a-t-il entre la lettre de motivation et le CV?
Voilà. Merci Justin, ça c'est une question qui va revenir, qui parle au sujet d'une autre émission. On va terminer avec vous, Alain Poutou. Donc, pour une personne qui n'a qu'un diplôme, d'État, il y a possibilité de trouver un emploi.
Je lui rassure, si la personne parle déjà anglais, il connaît l'informatique, la personne a même un permis de conduire et il a suivi des formations professionnelles, je pense que cette personne peut se retrouver dans la vie. Ça ne sert à rien que les gens se laissent intimider par les années d'expérience ou les diplômes. Ça reste comme ça, on va toujours les exiger.
Alors pour ceux qui veulent suivre les formations, le centre se trouve où, à numéro de contact?
Oui, à Kinshasa, nous sommes au centre catholique Béthany, derrière la paroisse du Sacré-Cœur. Pour toute personne qui a besoin de certains détails par rapport au CV, lettre de motivation en attendant l'émission, je suis joignable au 09 98 17 21 43. 09 98 17 21 43. Donc ils peuvent appeler, on va toujours répondre à leurs préoccupations. Donc je dis 09 98 17 21 43.
Alain Poutou, expert en ressources humaines, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.